Parce que la chanson crâne,
oui,
elle avait sa raison d'être dans l'étranger. Les gars, ils voyaient leurs copains tous les jours à un tomber. Et maintenant, vous cueillez à froid des gens qui n'ont aucune idée de ce que ça pouvait être la guerre. On ne peut pas s'imaginer la chanson crâne. Maintenant, surtout sur des jeunes, ça ne représente rien. C'est une histoire politique pour les jeunes. Alors que pour les gars qui étaient à l'étranger, c'était pas une histoire politique, c'était leur peau qui était en jeu. C'est tout différent.
Oui, mais c'est quand même une histoire politique. Hein, parce que
y a, ce pour eux, c'était leur vie. Ouais. Les gars qui l'ont vécu,
c'est tout. Il fallait avoir le courage de le dire en 1917, parce qu'on était quand même dans un climat de censure terrible.
Ils n'avaient plus rien à craindre. Le lendemain, ils seraient morts, ces gens-là. À l'occasion, ils sont morts. Ils sont morts le lendemain. Donc eux, ils n'avaient plus rien à perdre. Parce que nous, maintenant, même pour notre petite retraite, on fait gaffe, hein. On ne choque pas les gars qui vous la payent, hein.
Et puis, c'est pas seulement la révolte contre la guerre, parce que là, il y a des gens qui sont accusés, hein. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront. Ça veut dire qu'il y a une réflexion sur les buts de la guerre, oui.
Non, mais c'est une révolte contre les généraux. Si on écoute bien la chanson, en fait, c'est pas sur le plateau, sur les tranchées, c'est les personnes qui sont à l'abri pendant que les gars se font casser la gueule, en fait.
Voilà. Alors, en prof d'histoire, racontez un peu cette offensive.
Bon, bah, cette offensive, le général Nivelle, c'est quelqu'un qui maintenant a plus tellement bonne presse, mais à l'époque, il était extrêmement populaire et en particulier, c'est quelqu'un qui avait joué un rôle décisif, si vous voulez, à Verdun. Ça, faut pas oublier ça. C'est parce qu'il avait donc montré que l'artillerie jouait un rôle à Verdun, qu'on pouvait percer, si vous voulez, de façon très très localisée, qu'il a donc obtenu le commandement en chef de l'armée française, donc puisque Joffre, bah, finalement, il était usé depuis 14.
Joffre et Pétain avaient prévenu quand même le gouvernement de pas faire l'attaque Nivelle.
C'est ça, non, mais...
Et comme lui avait fait Verdun et avait quand même fait gros, automatiquement, ils l'ont laissé faire, ils ont laissé Nivelle prendre tout le commandement.
Il y a donc en fait toute une série de conflits politiques. Hein, faut pas l'oublier, ouais, ça. Hein, entre certains ministres, certains hommes politiques, donc qui sont pour les uns tenants de Nivelle, pour les autres tenants de ce qui va être Pétain finalement. Hein. Mais quand même, on donne d'une certaine façon carte blanche à Nivelle. Enfin, au moins un certain nombre d'hommes politiques donnent carte blanche à Nivelle, parce que Nivelle a dit bon ben moi en 48 heures je fais la percée et à H plus 24, oui, je dors à l'angle, quoi.
Quand ils ont attaqué à 6 heures du matin, ils auraient dû s'arrêter à 6 heures et demie. Et Nivelle a voulu absolument continuer.
Ça a duré un jour, deux jours, trois jours, quatre jours avant qu'ils s'arrêtent.
Ils ont relaté que l'état-major a été au courant qu'il fallait arrêter, que c'était un échec. Et on a continué.
Et c'est la plus grosse boucherie de l'histoire d'une boucherie.
Ça peut se discuter, parce que vous savez...
Dans le concours des boucheries
Dans le concours des boucheries, il y a quand même
la
pas
somme,
mal...
La somme, c'est bien aussi.
La somme, c'est pas mal, hein, en juillet 1916. Ce qui est pas mal non plus, c'est les premières semaines de la guerre de 14. Et ce qui est pas mal non plus, et ça, on a tendance vraiment beaucoup à l'oublier, c'est mai-juin 40. Hein, parce qu'en 6 semaines, vous avez eu quand même un nombre de morts qui était très, très important. Mm-hmm. Alors, vous savez, les boucheries...
La chanson, elle est pas née là, elle est pas née sur le front. Les mutineries, c'est pas des gens au front. Il y a eu très peu de mutineries au front. Hein. Les gens qui refusent de sortir des tranchées sont très rares. En fait, ce qu'il y a, c'est les gens qui refusaient de remonter au front. Hein, c'était à l'arrière, au repos, à quelques dizaines de kilomètres. Voilà. C'est là qu'on chantait cette chanson-là. On la chantait pas dans les tranchées. Oui. C'était interdit, de toute façon. La chanson.
N'oublions pas que toutes les armées, puisque c'était une guerre mondiale, ont eu ce style de chanson. La fameuse chanson des Anglais qui demande où est le sergent, il est accroché au barbelé.
Et du côté allemand, aussi, il y a des chansons analogues sur le...
Disons que du côté allemand, quand on pouvait chanter, c'était bien. Mais ceux qui ont essayé de chanter des chansons pacifistes, en général, ont terminé très rapidement leur vie devant un poteau d'exécution, souvent. Et c'était surtout dans le 18.
Et ce qui est quand même très, très frappant dans la chanson de Crâne, c'est pas seulement une chanson pacifiste, c'est pas seulement une chanson antimilitariste, où on annonce que les soldats vont se mettre en grève, c'est aussi une chanson révolutionnaire. Il y a quand même un contenu révolutionnaire, un contenu de lutte de classe.
Il y a l'idée de grève, ah ben oui, il y a l'idée de grève et il y a l'idée de classe. Alors après... est-ce que on peut dire que c'est une sorte de complot? Bon, est-ce qu'il y a une sorte de grand complot révolutionnaire? Bon, là, je crois qu'il faut. Il y en a qui l'ont dit, hein. Mais
on a essayé d'accréditer cette version-là après.
C'est vraiment
la
guerre, C'est vraiment aller trop loin.
Mais quand même, ces bidasses, ces soldats de l'infanterie, etc., c'était qui? C'était plutôt des prolos, c'était plutôt des paysans.
Ah, c'est plutôt des paysans.
Oui.
La grande majorité, bon, faut pas oublier qu'à l'époque, la France, c'est
rurale.
C'est quand même une France rurale, que les combattants de 14-18, côté français surtout, mais dans les autres pays, c'est la même chose, sont d'abord des paysans, hein. Et c'est d'ailleurs sont les paysans qui fournissent le plus lourd tribut, en fait, hein, aux victimes du conflit.
C'est eux qui ont une prise de conscience. Moi, j'avais un grand-père paysan qui raconte qu'en 1914, il est parti ravi, content, il allait faire la guerre, il allait gagner, il allait voir du pays.
On criait à Berlin, à Paris.
Oui, oui.
Il partait pour 6 mois.
Oui, on y va, on revient.
Pour Noël.
Et sa prise de conscience, elle s'est faite sur le front, parce que là, il a rencontré des ouvriers, il a rencontré des gens qui avaient l'habitude des luttes sociales, et mon grand-père s'est jamais réadapté à la vie à la campagne. Il est devenu ouvrier, il est parti en ville après la guerre, parce que ça lui avait aussi quelque part éveillé l'attention sur ce qui se passait dans le monde. Alors que du fond de sa campagne, c'est pas qu'il était patriote, je crois qu'il, bien sûr, il y avait l'influence des instituteurs, mais il était surtout inconscient du fait que la guerre, elle a des responsables, qu'il y a eu des décisions politiques de prise.
Oui, enfin, n'importe comment, les luttes sociales ne sont pas nées quand même avec la chanson de
absolument
de
pas, non.
Mais il y avait des luttes sociales en France
absolument.
Qui étaient...
Mais les luttes sociales, on peut dire, resurgissent en 1917 dans la chanson de Craon.
C'est ça.
Alors que, disons, pendant les premières années de la guerre, bon, c'était ce qu'on appelle l'union sacrée, hein, c'est-à-dire il n'y avait plus de partis différents, il n'y avait plus que des Français.
Il y a une chanson qui dit « L'Internationale, on la chantera au retour ».
Oui, ça c'est la lettre, vous connaissez, c'est une chanson de Montéus qui s'appelle « La lettre d'un socialo ».